Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado des attachés de presse. Comme le dit le dicton, l'agriculture, c'est la vraie culture. En arrière, ces dernières en tête, on discute aujourd'hui avec Samuel Fecteau, étudiant en droit issu du milieu rural et qui s'intéresse à ce domaine en constante évolution. Tout ça sur les ondes de CFAQ 83, ça part ici. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Renaud, Samuel et Megan.
Hello.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue en studio, Sam. C'est la première fois que tu viens ici. Comment tu te sens?
Ah, un petit peu stressé, mais on devrait y arriver. Là. On a quelque chose de... On a un beau plan à parler ce midi, donc moi j'ai bien hâte.
Ben oui, puis... Je vais t'en être avec toi, comme je te le disais hors onde. On sort un peu de ma zone de confort. Parce que c'est pas tous les jours qu'on parle d'agriculture, surtout quand on veut le mélanger avec le politique. C'est peut-être ça le problème. On n'en parle pas assez, puis on voit pas l'importance de concrète que c'est l'agriculture. Ça, on va pouvoir en parler plus tard, mais tout d'abord, je te laisse le temps de te présenter.
Oui, donc comme tu le dis, moi je m'appelle Samuel Fecteau, je suis étudiant en troisième année ici à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Ça va de soi là. Je suis issu du milieu agricole, je viens de la Beauce, je suis acériculteur à temps perdu. Donc, cette fin de semaine, vous savez où me trouver. Là. C'est à la cabane à sucre que ça se passe.
Ça va être une grosse fin de semaine, je pense.
Oui, bien, ça commence tranquillement. Là. Depuis la semaine passée, on a commencé à bouillir le fameux sirop d'érable. Puis, en fait, par mes implications, tant bénévoles que professionnelles, en fait, je souhaite me destiner finalement à travailler dans le milieu agricole à titre d'avocat en droit agricole. Donc, je suis vivement intéressé par tout ce qui se fait, là, tant au niveau de la protection du territoire agricole que de la mise en marché, puis tous les enjeux qui sont connexes, entre autres l'agro-environnement, puis les nouvelles pratiques agricoles finalement. Fait qu'aujourd'hui, on m'a demandé de venir parler un peu de tout ça, donc moi ça me fait bien plaisir, c'est mon dada, donc je suis bien content.
Ben oui, puis justement l'agriculture, t'as grandi là-dedans, dans cet environnement-là, cette culture-là. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la place que ça a, mettons, comme l'histoire agricole dans ta famille, ainsi que plus généralement dans la région, le Québec?
Donc, effectivement, là, au niveau de la conception de la ruralité, je dirais que... Bon, comme plusieurs Québécois, en fait, moi, je viens d'une famille agricole. Mon grand-père était cultivateur. C'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Maintenant, on parle plus de producteur agricole. Il y a eu un changement là, au niveau du rôle de ces personnes-là dans la société. Mais effectivement, moi, j'ai à ce niveau-là, tout ce qui est le maintien du mode de vie rural, mais en fait, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi, dans lequel je me suis développé. Puis, en fait, c'est quelque chose pour un citadin qui est un peu nébuleux, mais qui fait partie finalement de l'identité de moi puis de milliers d'autres personnes là, à travers la province.
Puis, je l'ai dit en introduction, puis ceux et celles qui ont réalisé le Parlement étudiant du Québec vont comprendre l'anecdote en quoi l'agriculture, c'est la vraie culture. On le dit ça de manière assez, on le répète souvent au caucus des Rouges. On les salue d'ailleurs, mais comme tu l'as mentionné, tu sais, comme plusieurs Québécois, tu proviens d'une famille d'agriculteurs. Si je te prononce, je te pose encore la question d'agriculture, c'est la vraie culture. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que c'est vrai que l'identité québécoise se à la base, se définit autour de ça un petit peu?
Oui, ben en fait, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Quand on regarde un peu l'histoire du développement de la province, mais en fait, il y a un certain moment donné dans notre histoire où on a eu justement un repli sur qu'est-ce qui était un Canadien français. Puis un Canadien français, essentiellement, effectivement, on l'a bâti autour de la terre, autour de la famille, puis autour de la foi catholique. Puis ça a vraiment été le pilier de l'identité canadienne-française pendant plusieurs décennies. Donc, à ce moment-là, effectivement, de cette identité qui était très circonscrite à ce qu'est un Canadien français, mais en fait, c'est bâti justement cette identité-là. Puis, à partir de ça, ben, on a pu évoluer pour devenir les Québécois que nous sommes aujourd'hui. Mais ça reste quand même quelque chose qui est profondément ancré en nous.
Mm-hmm. Il suffit de penser au roman du terroir, Maria Chapdelaine, La Terre paternelle, Le Survenant, autant de livres qui ont marqué la littérature québécoise avant la Révolution tranquille. Souvent, tu sais, on voit un peu l'histoire du Québec comme il y a un avant 1960, puis un après 1960, puis comme quoi c'est radicalement différent. Mais reste qu'il y a une partie de ce qu'on était avant qui reste encore aujourd'hui, tu sais, qui a été quand même transmise malgré tout.
Oui, ça, je peux juste être d'accord avec ça. Puis c'est cette transmission d'identité-là, en fait, aussi, je pense qu'elle a perduré de manière plus dominante dans le milieu rural parce que, justement, il y a un attachement sentimental lié particulièrement au bien paternel, à la terre, puis tout ça qui s'est perdu finalement avec la révolution industrielle puis l'exode des campagnes vers les villes.
Oui, puis ça, on va en parler plus tard, mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu du mouvement coopératiste parce qu'on sait, le Québec a un modèle de société, c'est pas dominant, mais ça existe tout de même, le modèle des coops. Puis ça a eu des origines dans le milieu agricole, notamment.
Oui, bien exactement. En fait, quand j'ai parlé de repli là, tout à l'heure, là, ben, en fait, l'émergence du mouvement coopératif, c'est exactement la réponse à ce repli-là, dans le sens pour comment qu'on fait pour continuer de croître puis d'augmenter notre qualité de vie en demeurant finalement dans nos campagnes. Puis ça, le mouvement coopératif, c'est carrément la réponse de ça, à cette problématique-là. Parce que faut comprendre que l'accès au crédit pour le milieu agricole puis les Canadiens français était inexistant. Les cultivateurs devaient se tourner vers des prêteurs privés, là, qu'on pourrait qualifier d'usuriers à certains égards, là, des fameux séraphins poudriers là, qui avaient un peu plus d'argent que les autres, puis là, qui faisaient des prêts. Donc, ça faisait que la modernisation était très difficile. Un cultivateur qui voulait, à l'époque, acheter un cheval de plus ou acheter une machinerie qui permettait de rendre sa production plus productive, ben en fait, il devait payer des taux d'intérêt très importants. Fait que le crédit agricole a été vraiment, la mutualisation du crédit a vraiment été le premier facteur pour augmenter la productivité des entreprises agricoles. Puis, en parallèle, il y a aussi les coopératives de producteurs. Donc, au niveau du prêt, on peut penser aux Desjardins, là, aux ancêtres de Desjardins.
Le plus grand exemple québécois de coopérative, là, Desjardins.
Exactement. Puis le deuxième exemple de coopérative québécoise, mais en fait, c'est une coopérative agricole aussi. Donc, on peut penser à Agropeu ou on peut penser à Solio Agriculture, qui est anciennement la coop fédérée. Donc ça, c'est des coopératives de producteurs qui visaient essentiellement deux choses. Mettre en marché des produits en commun. Donc, si on regarde des agriculteurs, admettons, du lac Saint-Jean, qui produisaient du lait, ben à ce moment-là, eux autres, ils pouvaient produire du lait, de la crème, du beurre, mais ils étaient limités en termes de vente au village environnant. Puis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien
c'est
beau.
C'est limité à un moment donné.
Ben, c'est ça, mais il y a une certaine population. Ce que les agriculteurs voulaient, c'était vendre à Montréal, c'était vendre aux États-Unis, c'était vendre. Bon, mais sauf qu'un agriculteur seul ne peut pas acheter un wagon de train qui va descendre à New York vendre son beurre. Mm-hmm. Donc là, quand il y avait un groupement de producteurs qui étaient capables de d'affréter un wagon de train puis descendre le beurre jusque dans un grand centre. Fait que ça, c'est une façon d'aller chercher un meilleur prix pour les denrées agricoles. Puis, troisième volet de ce deuxième point-là, c'est au niveau de la... Bon, là, il y a mise en marché en commun, puis ensuite, c'est de dire d'utiliser le pouvoir d'achat des cultivateurs pour réduire le prix des intrants, donc la semence, les engrais, tout ça. Donc, mettre ensemble un volume de production qui permet d'aller chercher des économies d'échelle qui sont distribuées à même les entreprises agricoles. Donc ça, c'est vraiment les deux volets qui ont vraiment... Qui ont pris leur émergence avant la révolution verte des années 50-60, donc l'arrivée de la pétrochimie en agriculture, mais qui ont vraiment été finalement le germe finalement de l'émergence de l'agriculture finalement qu'on connaît aujourd'hui. Là.
Puis ça a permis à l'agriculture québécoise de garder un certain poids concurrentiel face aux géants que tu peux avoir, ne serait-ce que dans l'Ouest canadien ou bien aux États-Unis. Du fait que les gens ils se mettent ensemble pour avoir un meilleur rapport de force, ça me fait penser à une citation, je ne sais plus c'est de quel philosophe, qui disait « La compétition, c'est la loi de la jungle, puis la coopération, c'est la loi de la civilisation. » Puis je trouve ça bien intéressant que les cultivateurs qui ne veulent pas, c'est ça, étaient assez marginalisés dans la société, étaient capables de mettre leur petit pouvoir en commun.
Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant aussi, comme tu l'as mentionné, sans cette vision-là, cette innovation-là différente de voir les choses, le marché, pour pouvoir le pouvoir d'achat, probablement que les producteurs québécois ben, auraient eu plus de difficultés, même seraient fait engloussés si on n'aurait pas ordonné notre façon de voir le marché, ce qui nous permet de nous positionner comme un acteur relativement important en Amérique du Nord malgré tout. Puis même, je pourrais dire, on pourrait monter ça à l'international malgré notre petit nombre d'habitants, même notre petit nombre d'agriculteurs. Là. Mm-hmm.
On parlait des années 50 puis tout ce qui vient avant en termes du mode de vie des agriculteurs. Puis tu as mentionné la révolution verte. Peux-tu nous dire c'est quoi puis où c'est que ça nous a amené ça?
Mm-hmm. Bon, en fait, c'est bien simple. Là. Comme un peu n'importe quel secteur d'activité économique suivant la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'agriculture a connu des années de croissance, là, j'allais dire extraordinaire, là, mais de forte croissance. Puis ça, c'était dû, en fait, à une promesse, essentiellement. C'était de dire qu'il y avait une solution à tout, il y avait une solution chimique ou pétrochimique à peu près tous les problèmes que les agriculteurs avaient ou vivaient. Donc, cette révolution verte, en fait, c'est un moment où ce que là, on a vraiment vu quelque chose comme la professionnalisation de l'agriculture. Donc, on passait de des fermes de subsistance qui avaient pour but de finalement subvenir aux besoins d'une famille, puis d'avoir un petit surplus qui permettait de gérer quelques dollars pour acheter les autres éléments, à vraiment des entreprises agricoles avec des agriculteurs qui sont professionnels. Donc, vraiment des entreprises qui utilisent finalement les leviers des engrais, les leviers des pesticides, les leviers de la machinerie lourde pour produire à bas prix les denrées agricoles puis finalement nourrir le monde. Ça venait en fait en réponse à la croissance démographique qui a été très forte dans ces années-là puis des avancées techniques et scientifiques également. Donc cette période-là en fait on peut dire là à une règle du pouce 50 60 jusque dans les années 70. Nous au Québec on l'a vécu. Puis aussi c'est à ce moment-là qu'on a eu beaucoup de changements dans le milieu agricole puis je vous dirais que à l'heure actuelle, le modèle agricole québécois est grandement basé sur finalement les fermes ou la vision des fermes des années là, 70 ou qui a vraiment été un pivot très important là, dans le milieu agricole québécois. Là.
Puis c'est un pivot important en général dans la société québécoise. Cette vague de modernisation-là, elle se fait évidemment au niveau technique, scientifique, elle se fait au niveau culturel. Puis on assiste aussi à des changements démographiques et géographiques. Beaucoup de gens qui quittent les campagnes puis qui s'en vont habiter en ville, l'émergence des banlieues. On a également le développement des barrages, le développement de nouvelles mines. Donc, il y a un certain exode rural, puis certaines campagnes, en fait, vont se vider carrément. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, bien, en fait, des années 70 puis 80, là, probablement qu'on est... puis, tu sais, je veux dire, je l'ai pas vécu personnellement, mais il y a plusieurs milieux qui ont été à des creux historiques là, en termes de population, là, liés justement à l'exode rural. Puis à, bon, finalement, il y avait plein d'autres solutions ailleurs qu'en campagne. Puis ça a profité aux personnes qui sont restées, qui ont pu grossir leur exploitation agricole, tirer un meilleur revenu. Ça, des exemples là, qu'on voit dans les années 70-80, quand on regarde en Abitibi-Est, justement, on a fermé carrément des villages parce que il y avait plus de monde, là, où il y avait un peu de monde, là, puis les quelques qui restaient, mais en fait, avaient un rêve, c'était de vivre d'agriculture. Puis on peut penser à des hommes comme Maurice Lalancette qui se sont battus bec et ongles, justement, dans les années mi-70-80 pour préserver l'identité propre qu'ils avaient développé au cours des 30 dernières années à défricher l'Abitibi. Puis ça a vraiment été un clash. Quand je dis que c'est une grande période de changement, ben on avait d'un côté une vision plus humaine, j'aurais envie de dire, de ce qu'est l'agriculture, puis on avait une vision plus industrielle. Puis ensuite, ben les politiques gouvernementales ont carrément été orientées vers le productivisme, l'exportation, puis la vision industrielle au détriment de l'aspect plus humain. Là.
Avec les enjeux qui viennent avec,
oui.
Je pense, le premier qui me vient en tête, c'est vraiment environnemental. T'sais, quand on parle d'agriculture industrielle, pesticides, je pense toujours à Monsanto rapidement. Et là, tu me corrigeras, là, peut-être qu'il n'était pas un... Il était dans ces acteurs-là, ces époques-là, où est-ce qu'il amenait des engrais pour promouvoir la productivité au détriment de la richesse des sols, au détriment de la santé les produits qu'on consomme. C'est un peu, je pourrais dire, un virage. Ben là, c'est un peu trop tard pour revenir en arrière, comme on dit, ça fait longtemps, mais j'ai comme l'impression qu'on a misé beaucoup avec un signe de pièce au bout de la ligne versus les réels enjeux du vrai monde, au final. T'sais. C'est ma petite réflexion.
Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à l'époque, on le savait pas. On n'avait pas encore quantifié l'impact de ce genre de pratique-là. Puis on se fiait justement, comme tu dis, au profit qui en résultait. Là, c'est pas compliqué. Là, on règle nos problèmes puis on fait plus d'argent. Là, tout le monde, tu sais, jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'il y a peut-être certains risques pour la santé des agriculteurs eux-mêmes puis ensuite de l'environnement. Tu sais, c'est pas pour rien que, tu sais, en 2003, tu sais, il y a eu le règlement sur les exploitants agricoles qui a juste arrêté l'augmentation de la superficie des cultivables. Donc, on ne pouvait plus défricher parce qu'on avait tellement défriché qu'il y avait des bassins versants qui étaient encrassés finalement de résidus agricoles issus d'une production intensive. Fait que là, on s'est rendu compte que, oups, les rivières, quand les poissons ont de la misère à vivre dedans, là, je fais peut-être des parallèles un peu rapides, là, mais l'idée est la suivante, c'est de dire, ça a des répercussions, puis on s'en est pas rendu compte, on a préféré le profit immédiat lié à ça. Là.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus d'impact négatif que de positif quand on est sorti de ce changement-là? Ou...
Ça c'est un grand débat, puis il faudrait voir sur quel facteur qu'on veut regarder. Si on regarde le nombre de fermes qui sont en activité pré-1960 puis de nos jours, c'est une chute dramatique. Là. Aujourd'hui, il y a 28 000 exploitations agricoles, il y a 50 000, en tout cas plus ou moins entre 40 et 50 000 agriculteurs, agricultrices au Québec. Puis ce nombre-là, en fait, c'était probablement x3, x4 à cette époque-là. Donc, si on regarde ce facteur-là, c'est un échec. Si on regarde ensuite le revenu agricole moyen par entreprise, on va dire c'est une réussite. C'est une réussite, les fermes génèrent de plus en plus par exploitation. Si on regarde ensuite, il y a plein d'autres facteurs qu'on peut regarder, mais comme je dis, c'est pas une question qu'on peut dire blanc ou noir. Si on regarde d'un certain côté, on va dire oui, ça a des impacts négatif supérieur au positif. Mais effectivement, là, en tout cas, moi, je suis sûr de dire que ben, il y a peut-être des choses qu'on aurait dû faire différemment.
Oui. Puis tu as mentionné le nombre d'agriculteurs qu'il y a aujourd'hui face au nombre d'exploitations. Donc, on remarque ici que tu as mentionné brièvement qu'il y a une concentration de la propriété aussi qui se fait. Donc, on peut dire qu'il y a une pression spéculative. Donc, est-ce que l'accès à la propriété agricole, à avoir une terre aujourd'hui, est plus compliqué?
Ça a toujours été un défi. Moi, je regarde des anecdotiquement parlant, là, mon grand-père, il y avait un voisin dans le rang qui était à vendre en 1980 puis, ou en 1990, admettons. Là, puis c'était 3 000 $ l'acre qu'il demandait. Là. Mais aujourd'hui, la même terre n'en vaut 20 000 $ l'acre. Fait que tu sais, c'était un gros montant à l'époque, 3 000 $ l'acre. Aujourd'hui, je pense que à ces prix-là, c'est très, 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 très difficile de rentabiliser. Donc, la relève agricole a vraiment des gros défis en termes d'accès au capital. Donc, c'est vraiment un enjeu qui plombe énormément sur la capacité de croissance de l'agriculture au Québec. Heureusement, on a encore des régions qui s'en tirent pas si mal. On pense à l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais encore là, c'est des régions périphériques au grand centre. Mais dans les grands centres, la pression spéculative est très, très, très forte. Là. Mmh. T'sais, à Brossard, la fiducie Fondaction UPA a racheté justement récemment une terre agricole pour finalement contrer la spéculation, mais je pense que ça s'est vendu 50 000 $ l'hectare. Là. Donc, c'est des considérations là, qui sont... Il n'y a pas une façon de faire de l'agriculture à ce prix-là puis d'obtenir une rentabilité. Là. C'est juste... pas possible.
Mais oui, tantôt, je parlais de notre documentaire que j'écoutais justement, Terre d'asphalte, puis un agriculteur en parlait qui, maintenant, une terre pour un jeune qui voulait se lancer en agriculture, il avait fait les calculs, ça prenait 123 ans avant d'être capable de se faire 1 $ de revenus sur la terre qu'il avait achetée, parce que ça atteint justement, t'en parles, là, des
sommets
inouïs. Ça n'a pas de sens, là, mais ouais. Oui, non.
Puis, l'enjeu ici, puis à ça, j'ajouterais que ce documentaire-là a été fait, je pense, en
2020-2021.
Ouais, c'est ça. Donc, ajouter à ça la hausse des taux d'intérêt. Donc, ouais. je pense que ça va prendre trois générations.
Oui, c'est ça, justement, c'était 123 ans avec aucun taux d'intérêt. Là. Okay. Il achetait à 1 000 000 puis il n'y avait pas de taux d'intérêt. Là. C'est fait ça. Que c'est...
Non. Mais en tout cas, je vous conseille, si vous avez $1 million à vous faire prêter sans intérêt, vous dites oui tout de suite. Là, hein? On s'entend,
là. Ça l'amène une question, puis avec de relève agricole, on l'a mentionné. Non seulement, ben, de plus en plus, les troisième générations, les générations de fermes familiales, ben, prennent de moins en moins la ferme à la place de leurs parents. Mais si tu veux faire le chemin inverse, moi, je viens pas de l'agriculture, mais je veux m'embarquer là-dedans, tu peux pas l'acheter. Fait que là, tu te ramasses à, ben, des deux côtés, il y a une baisse démographique dans le milieu. Mm-hmm. C'est un peu. C'est pas rose le milieu de l'agriculture. Là. Puis on dirait qu'il n'y a pas d'issue possible. Je suis pessimiste, mais est-ce qu'il faut être pessimiste à ce point-là? T'sais?
Ben, j'aurais envie quasiment de te donner raison sur ça. C'est sûr que le milieu agricole, c'est quelque chose qui est avant tout une passion. Ça, c'est la première chose. Donc,
tu comptes pas ton argent et tu comptes pas ton temps non plus.
Oui, mais ça, à mon avis, je trouve que c'est un problème. Que de penser de même, mais ouais. Sauf que la réalité, c'est que les gens qui font de l'agriculture en 2023, c'est des gens qui sont passionnés de le faire parce que c'est tellement difficile. Il y a tellement de choses que l'agriculteur ne contrôle pas. L'agriculteur, il contrôle comment il conduit son tracteur.
Mais il y a un qui se lève le matin, tu sais.
C'est ça. Mais outre ça, l'impact des guerres, bon, mettons l'impact de la guerre en Ukraine, il contrôle pas ça. Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, il contrôle pas ça. Donc, c'est toutes les accords de libre-échange qui viennent diminuer les parts de marché avec des produits qui sont faites sous des normes pas les mêmes qu'ici, donc qui viennent d'une concurrence finalement qu'on peut qualifier de déloyale. Donc, quand on fait la somme de tout ça, il y a bien des choses que l'agriculteur ne contrôle pas, puis qu'on rajoute en plus le prix exorbitant de la machinerie, des intrants. Là, on met un stress incroyable. Puis, en fait, moi, je lève mon chapeau à ces personnes-là qui sont capables de vivre avec une telle pression. Là, il y a des entrepreneurs qui vont vivre la même pression dans des entreprises, disons, de services ou manufacturières. Là. Sauf que en agriculture, c'est pas mal la norme que de vivre avec cette pression-là quand ouais. on se part de zéro. Là.
Oui, c'est ça fou. Fait.
Parce qu'il n'y a rien de plus essentiel que le fait de pouvoir nourrir une population, mm-hmm. tu sais, au final.
Vas-y.
Non, mais on dépend de ça. Puis pendant ce temps-là, ces gens-là, ils sont relativement invisibilisés dans la société. En tout cas, dans les grands centres, on n'en voit pas, évidemment. Puis aussi, de se dire que ces gens-là passent la majorité de leur temps, ben, ou la majorité de leur pression financière, c'est de se dire, bon, tu sais, il faut que je rembourse mon hypothèque, il faut que je rembourse mes prêts d'achat de tracteurs, de machinerie, ce genre d'affaires-là. C'est ça, ça crée une pression à un moment donné. Puis en plus, s'ils sont même pas propriétaires, parce qu'il y a quand même un grand nombre d'agriculteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs terres.
Mm-hmm. C'est rendu, je pense, autour de 40 % de l'agriculture au Québec qui se fait sur des terres en location. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une portion là-dedans, ça, que c'est pas une relation, comment qu'on pourrait dire, féodale, là, mais sauf que c'est peut-être un risque qu'on va se retrouver un jour. Puis, tu sais, si on regarde des régions urbanisées comme, mettons, l'île de Laval, mais on se rend compte qu'une très forte proportion, voire une majorité des terres encore en culture, entre guillemets, là, qu'on ne sait pas quand qu'ils vont tomber sous les pelles et les boules pour faire de l'asphalte, là, puis du développement résidentiel d'une belle petite maison de banlieue avec une petite piscine en arrière. Puis, mais c'est le rêve de bien des gens. Là, puis même moi, j'ai grandi dans un milieu où j'avais une petite piscine en arrière de chez nous, puis une headset là, qui séparait du voisin. Là, c'est un mode de vie qui est le nôtre, finalement. Là, on n'échappe pas à ça. Mais sauf que la répercussion de ça, c'est de dire, ben, un jour, on va empêcher de faire de l'agriculture, puis est-ce qu'on va se rendre compte un jour qu'on a peut-être été trop loin sur notre modèle de développement très extensionniste? Est-ce qu'on va se rendre compte justement que, oups, ben là, on n'est plus capable de faire pousser des tomates, puis on n'est plus capable de faire pousser notre maïs, on n'est plus capable de mm-hmm. On va-tu se rendre là? Mm-hmm. Puis la conséquence de ça va être quoi? Ça va être que ben ta douzaine d'œufs, ben, elle va coûter, ou ton poulet va te coûter 30$ parce qu'il n'y a plus personne qui va être capable d'avoir un coût de production mm-hmm. en bas de ça.
Faut faire venir ça du Manitoba ou ben des États-Unis, tu sais. Ça n'a pas d'allure.
Puis je veux juste enchérir, c'est que à une époque où est-ce que on encourage la consommation locale, ou est-ce qu'on veut des bons produits santé faits par nos agriculteurs locaux à côté de chez nous, tu sais, pas encourager l'industrialisation de notre consommation alimentaire, tu sais. C'est un peu, je trouve ça vraiment particulier qu'on encourage autant ça, mais que de l'autre bord, ben, on n'essaie pas de construire ça ou de valoriser cette espèce de milieu-là qui nous permet d'arriver à une consommation locale et responsable, tu sais, alors qu'on encourage tout le monde de le faire. C'est un gros défi assez contradictoire. Ben, c'est assez contradictoire comme objectif, bref.
Mais ça, c'est assez récent, là, on va se le dire. Là. C'est cette volonté-là je dis c'est assez récent. C'est que dans les années mi-70, 80, sous l'ère Garon, il y avait vraiment une réelle volonté politique d'arriver à une autosuffisance ici dans la province de Québec. Puis finalement, bon, pour toutes sortes de raisons, là, on a dit, bon, ben finalement, tu sais, il y a peut-être d'autres priorités pour le gouvernement. Puis ça a perduré pendant plusieurs années. Les ministres de l'Agriculture se sont succédés. Je pense que quand on regarde dans les 50 dernières années ou en tout cas, peu importe, dans les 30 dernières années, on se rend compte que les ministres de l'Agriculture, ça reste comme 2 ans en poste, 2 ans et demi, 3 ans, puis ça change. Fait qu'à un moment donné, la volonté, ben, parce que finalement, le ministère de l'Agriculture est vu comme un ministère de deuxième ordre, puis que finalement, c'est pour faire les classes, là. Mais sauf que quand on arrive avec des ministres, des premiers ministres qui n'ont pas la volonté de justement faire de cette question-là une question prioritaire, ben, c'est sûr qu'on n'arrive pas à à faire des miracles. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Puis c'est peut-être ce qu'on peut reprocher le plus à notre classe politique des 20 dernières années. Là. Ben,
est-ce qu'on peut amener l'agriculture non pas comme un sujet électoraliste, entre guillemets, puis l'amener... Non, c'est essentiel à notre quotidien, au même titre que... Là, vous allez comprendre l'analogie que je veux faire, mais au même titre que l'éducation et la santé, où est-ce que c'est au-delà d'une orientation politique, l'orientation à l'agriculture, mais c'est pour le bien. Ça n'a pas d'identité politique. On doit l'encourager puisque ça fait partie de nous, puis dans notre quotidien, mais ça l'avantage tout le monde au bout de la ligne. Là. C'est beau. Encore une fois, une belle piste de réflexion qui me vient à l'esprit parce que souvent, les partis politiques, les gouvernements au pouvoir prennent certains enjeux. Mettre leur ligne idéologique là-dedans brise des idées justement qu'ils ne doivent pas avoir d'idées politiques. Mais c'est encore une fois moi qui parle, qui dit sa façon de penser
aujourd'hui.
Mais
en même temps, c'est ça, tu parlais de l'ère Garon, mais ça c'est Jean Garon, ministre péquiste pendant je pense 8-9 ans au ministère de l'Agriculture.
Oui, c'est ça, exactement.
Puis lui, il avait vraiment une vision. Tu sais, c'était pas juste, tu sais, on fait des politiques un peu à l'aveugle. Là. Lui, il avait vraiment une vision puis il était enraciné là-dedans. Là.
Mm-hmm. Ouais, ça, mon grand-père, qui est gouverneur de l'Ordre national du mérite agricole, dit tout le temps, moi, j'ai pas vu un ministre de l'agriculture qui avait de l'allure depuis Jean Garon. Là. Donc, c'est comme ça fait partie du folklore rural. Là. Jean Garon, c'est comme le dernier ministre agricole ou tu sais qui a vraiment mis son pied à terre pour justement défendre la capacité et l'autonomie agricole québécoise puis qui a eu des répercussions très très importantes là.
Pouvez-vous faire un mini résumé de ce que proposait Jean Garon puis sa vision du Québec sur le plan agricole, pour ceux et celles qui ne connaissent moins.
Oui, mais sur ça, j'ai pu, pour préparer l'entrevue de cette
d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, oui, c'est ça, j'allais dire cet après-midi, mais oui, on est l'après-midi. J'ai pu relire un peu là, certains passages de son livre qui est un peu l'équivalent de ses mémoires, qui est intitulé « Pour tout vous dire, Jean Garon ». Puis, en fait, moi, ce que j'ai pu conclure un peu de cette lecture-là, c'est que pour lui, l'agriculture, c'est pas une utilisation de l'espace ou une utilisation du territoire qui doit être considérée comme l'utilisation par défaut de pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc, pour Jean Garon, l'agriculture, c'est réellement une façon prioritaire d'utiliser puis d'organiser le territoire de la province. C'est vraiment un moteur économique, un moteur de développement social. Un moteur d'occupation du territoire qui doit être priorisé au même titre que le développement de PME manufacturières dans les régions, que toutes les autres possibilités de développement qu'il peut y avoir. Mmh. Donc ça, c'était vraiment sa volonté numéro un. Puis il faut se rappeler aussi que Jean Garon, c'était un homme assez simple, qui parlait à tout le monde, puis que quand ses fonctionnaires ou quand il y avait du monde des lobbyistes qui venaient à son bureau puis qui disaient « Monsieur le ministre, c'est ça qu'il faudrait que vous devriez faire », ben il disait « Ben, OK, mais c'est pas ce que les agriculteurs me disent », parce que il y avait l'habitude dans ses tournées régionales, donc il allait faire un point de presse à une place ou à une autre. Puis là, sur la route du retour, il passait par les petits rangs. Là, il voyait un cultivateur au ras de son étable. Puis là, il débarquait de son char puis il allait dire « Bon, vous, monsieur, qu'est-ce que vous feriez à ma place sur cette affaire-là? Avez-vous des problèmes? » Puis là, il ramenait ça à son bureau sur le boulevard Saint-Cyril. Maintenant René Lévesque à Québec, qui est le siège social du ministère. Puis là, quand il y a des sous-ministres qui venaient puis qui disaient « Ouais, on devrait faire ça », mais ils répondaient « Ben, écoutez, c'est pas ce qu'on m'a dit sur le terrain. » Fait que, tu sais, cette proximité-là, en fait de lui vraiment un homme politique qui a eu une marque profonde le milieu agricole québécois.
Puis aussi des projets de loi, ben des lois qui ont été passées, notamment sur le zonage agricole, pour protéger notamment du développement immobilier puis de l'étalement urbain. Puis encore aujourd'hui, on en voit les impacts. C'est sûr que des fois, il y a des manières de contourner là, pour ôter des agricoles, on en a parlé un peu. Mais reste qu'aujourd'hui, c'est encore là comme loi.
Oui, c'est son ligue numéro un, à mon avis. Puis justement, tu sais, dans Terre d'asphalte, on parlait que ça a été fait suivant, en fait, des années, suivant les années de l'expo, là, on avait eu un problème avec l'accaparement des terres par des capitaux étrangers. Parce que, bon... À l'Expo 67, il y avait des belles images qui vantaient pour les investisseurs la fertilité des terres agricoles québécoises. Puis on s'est rendu compte des années mi-70 que, bataille, il y a 20 % des terres qui appartiennent à des spéculateurs. Puis de ce pourcentage-là, il y en a une bonne proportion que c'est des capitaux qui viennent d'Arabie Saoudite, d'Allemagne, du Royaume-Uni et Alouette. Donc là, on s'est dit, bon, c'est-tu vraiment l'agriculture qu'on veut? Puis ça, il y a eu la loi sur justement l'acquisition des terres par des non-résidents, puis la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles d'aujourd'hui, qui encore est le pilier fondamental de la protection de la denrée numéro un en agriculture, qui est le sol. C'est l'outil de travail numéro un, c'est le sol. Donc, c'est pourquoi ça vaut la peine d'être protégé au-delà de son impact d'occupation du territoire.
Mm-hmm. Puis ça m'amène à parler d'aujourd'hui. Maintenant, dans l'époque qu'on a, on a parlé d'autosuffisance alimentaire. C'est un thème qui revient aujourd'hui, surtout en contexte post-pandémique, si on veut. Le travail à distance ramène des gens beaucoup en campagne. Il y a des rêves d'autosuffisance, d'avoir un jardin, d'avoir un poulailler derrière chez soi. Il y a aussi un relatif exode urbain. Il y a beaucoup de régions, notamment périphériques, dont la mienne, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont vu un solde migratoire positif pour la première fois en 20 ans. Donc, on sent...
En Estrie, on voit la même chose aussi. Là, mm-hmm. En Estrie également.
Ben oui, puis c'est ça. Puis Montréal, pendant ce temps-là, une diminution du solde migratoire. Donc, on voit une espèce de changement de paradigme, et je pense pas que c'est seulement apparent. Je pense qu'il y a quelque chose de fond qui est en train de se passer. C'est sûr que ça, c'est une affaire de long terme, là. Mais je pense qu'il y a un changement de fond. Puis ça me fait poser la question, si on a parlé de le dépeuplement des campagnes, est-ce qu'on pourrait revenir à rebâtir des liens communautaires puis repeupler la ruralité qui a été abandonnée?
Je lisais également là, sur ça, c'est sur cette question d'exode urbain, si on peut la qualifier ainsi, là, que c'était pas nécessairement dans la vision de dire on fuit la ville, mais plutôt dans la vision de dire la ville est moins attractive par rapport aux régions rurales. Donc, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est au niveau de l'habitation. Donc, En région rurale, par chez nous, en Beauce, une maison à 800 000 piastres, je veux dire, il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a personne qui veut. Bon, il y a quelques personnes qui ont des grandes maisons, des grandes propriétés qui vont valoir ces prix-là, mais c'est pas quelque chose qui est courant. Vous allez sur la rive sud de Montréal, je pense que pour 800 000 piastres, votre choix est assez limité. Là. Je ne sais pas exactement le marché, là, mais... On s'entend que cette abordabilité du logement en région est probablement un facteur important. Puis après ça, au-delà de ça, ben, c'est quand que je vais sortir dehors, je ne vais pas avoir le truck de vidange qui est en train de reculer, le livreur, un taxi qui joue du klaxon, puis trois chiens qui sont en train de se courir après dans le parc à chiens à côté de chez nous. Donc, tu sais, c'est pas l'environnement dans lequel les ruraux vivent. C'est très idéalisé par les citadins, là, avec les petits oiseaux, la petite rivière, tout ça, mais tu sais, la réalité, c'est que c'est quelque chose qui existe, qui est attractif pour plusieurs. Puis moi, le premier, là, je veux dire, vous me parquez dans une tour où ce que on n'a même pas une fenêtre, on peut même pas ouvrir la fenêtre. Là, tu sais, c'est disons difficile pour peut-être une petite famille. Ouais. Pour ce qui est ensuite du pan de la de l'esprit communautaire, mais en fait, il y a l'enjeu des néo-ruraux, justement, qui, en fait, faut qu'il y ait une adaptation qui soit faite. Là. Ça va se faire naturellement. Là. Les mouvements migratoires intra-provincial, ça s'est fait. Là. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui... Je ne vois pas comment ça, que ça pourrait pas être une réussite encore. Mais effectivement, il y a des enjeux de cohabitation. Donc, faut pas penser quand qu'on se déplace, quand on va habiter dans un rang, que on va être capable de marcher dans le rang tout le temps. Donc, ça se peut qu'il y ait des tracteurs qui passent, qu'il y ait des skidoos. Il faut prendre ça en compte. Mais si l'objectif étant que de dire on veut occuper notre territoire, puis l'espace, on l'a en campagne, ben pourquoi ça? Pourquoi pas? En fait, je pense pas qu'on a d'appui politique ou d'appui financier à avoir à ce niveau-là, mais je me dis, tant qu'il y a de la place, pourquoi pas?
Oui, puis, tu sais, les changements climatiques, on en parle toujours comme étant une catastrophe, et à juste titre, puisque généralement, c'est le seul lait. Mais pour le Québec, puis pour l'agriculture, ça pourrait peut-être être quelque chose de positif, puisque ça rendrait certaines terres plus cultivables, plus arables. On en parlait avant l'entrevue. Est-ce que tu pourrais nous en glisser un mot?
Ben en fait, il y a deux choses à cette question-là. Ce que tu fais référence, c'est principalement en fait l'augmentation des unités thermiques maïs. Ça, c'est une unité qui permet de déterminer justement combien de chaleur finalement la terre est capable de recevoir. Puis ça permet que certaines cultures vont être possibles, puis d'autres non. Donc, à titre d'exemple, quand on va, admettons, dans le nord de l'Abitibi, donc vraiment dans le nord, du maïs, on peut pas en faire pousser parce qu'il n'y a pas justement assez du MT. Puis, ça fait que ces terres-là, en fait, sont moins rentables parce qu'on peut faire du foin, par contre. Du très bon foin, mais pas du maïs, qui est une des cultures les plus rentables. Maïs, soya, là, c'est facile. On met du pesticide, on met de l'engrais, puis on récolte, puis ça donne des bons rendements. On vend ça au prix de la bourse à Chicago, puis tout va bien là, tu sais, c'est quand même, ben c'est pas pour rien que quand on se promène d'ici à Montréal là, ce qu'on voit là, c'est pas des champs d'avoine, c'est pas des champs de canola, c'est pas des champs de lin là, c'est des champs de soya puis des champs de maïs là, à des proportions là très grandes, et même je dirais à des proportions qui peut-être sont pas optimales si on veut conserver la qualité de nos sols. Mais vu que je ne suis pas agronome, je vais me passer de commentaires sur ce point-là. Donc oui, ça peut être une opportunité. Par contre, ce que ça apporte également, c'est la présence de nouveaux ravageurs, la présence de nouvelles plantes nuisibles. Ou admettons, moi qui est en acériculture, ben, ça va avoir des impacts sur, admettons ici en Estrie, moi je suis encore un peu plus au nord, donc je me dis que je suis moins pire que les gens qui ont des érablières en Estrie, mais on sait que la variation du climat le printemps va avoir un impact finalement sur la productivité des érablières. Mais là, en contrepartie, ça fait que au Lac-Saint-Jean, où ce qu'il y a à l'heure actuelle, peu ou pas d'érablières, ben là, on va voir dans les prochaines années un développement. Donc, finalement, on va avoir peut-être une
transition vers le nord.
C'est ça. Fait que, est-ce que c'est vraiment plus un avantage? C'est sûr que si moi, je suis propriétaire des terres au Témiscamingue puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais dire, oui, c'est vraiment les changements climatiques à fond. Là. Moi, je prends mon 2500 puis je vais en faire de la boucane noire. Là, parce que tu sais, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux, mais ça apporte aussi d'autres défis. Donc, je ne serais pas prêt à... Mais il peut y avoir des avantages.
Renaud, je te donne l'honneur de poser la question par rapport aux options politiques. Je sais que tu en parlais en onde encore une fois, genre tout excité. Mmh. Donc, je te laisse là-dessus, mais je pense que ça va nous amener sur des réflexions fort intéressantes.
Mmh. On a parlé de plusieurs problématiques, notamment le coût des terres qui est prohibitif, le manque d'accès à la propriété agricole. Ben, il y a des solutions à ça quand même, ou du moins il y a des perspectives de solutions. On a parlé du contexte post-pandémique, on a parlé du changement climatique qui amène quelque chose d'intéressant. Et au niveau politique, on a quand même des options, notamment en termes de régions périphériques. On serait capable, politiquement, si on mettait de la volonté, d'encourager le soutien au défrichement.
Mm-hmm. Ouais, effectivement. Puis juste un peu avant d'aller sur cette question de l'augmentation de l'offre des superficies cultivables, on pourrait aussi rappeler une chose. Justement, comme je disais, là, il y a eu une période à peu près de 20 ans, 30 ans, où que, bon, il y avait une certaine morosité. Bon. Mais pendant cette période-là, il y a quand même deux rapports très exhaustifs et importants qui ont été mis de l'avant, c'est les rapports Pronovo. Donc, on l'a fait une fois en 2007-2008 de mémoire, puis une seconde fois en 2015 parce qu'on se disait, bon, ben là, ça fait déjà quelques années, là, vu qu'on n'a rien fait entre 2007 puis 2015, on va y redemander de faire un deuxième rapport. Bon, là, cette fois, on a cerné un peu plus la question, là, mais c'est deux rapports qui sont essentiellement, finalement, des pistes de solutions, là, tout à fait là, adapté au contexte agricole québécois et qui mériterait là d'être mis de l'avant. Puis ça se fait par volonté politique parce que il y a plusieurs solutions là-dedans ça qui coûtent pas vraiment quelque chose.
Comme quoi par exemple?
En fait, la réorganisation, un des principaux programmes de soutien à l'agriculture au Québec, c'est il y a eu certaines modifications depuis, là, mais essentiellement, là, c'est le programme d'assurance stabilisation du revenu agricole, l'ASRA. Ce programme-là est spécifique à certaines cultures industrielles, en l'occurrence. Donc, les cultures de maïs, de soya, le porc est accessible à ça. Donc vraiment, ça, ces mécanismes-là, finalement, il y a de l'argent. Là. Le budget du ministère de l'Agriculture, c'est plus ou moins là, 1,1 milliard. Là. Ce qui est à peu près l'équivalent des cultures, des communications, là, à peu près. Là. Juste pour donner un esprit. Puis, admettons, la santé, ça va être, je pense, le dernier budget, c'était 52. Puis, l'éducation, je pense, c'est 18-19.
Ouais, on n'est pas dans le même ordre d'idée.
Mais c'est ça, on n'est pas dans le même ordre, mais juste pour donner une idée. Donc, de l'argent, il y en a. Mais sauf qu'on se rend compte qu'il y a un type d'agriculture qui reçoit une grande partie de cet argent-là. Puis c'est l'agriculture qu'on pourrait qualifier de l'agriculture d'intégration. L'agriculture qui est faite pour faire des volumes d'exportation. Donc, si on réorganise justement ces programmes-là en limitant, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de limite, là, mais en limitant, en plafonnant les subventions par entreprise. Donc, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui reçoivent des centaines de millions de dollars en subventions, tandis que quand on est une multinationale, là, tu sais, je me dis, peut-être que c'est pas nécessaire. Ouais. Ou admettons, c'est pas le genre d'agriculture qu'on souhaite mettre de l'avant. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait utiliser un mécanisme qui soit différent pour justement favoriser le type d'exploitation qu'on souhaite? Puis moi, à mon avis, je pense que le potentiel des fermes familiales est très élevé. Puis je pense que ça mériterait justement d'aller vers là. Donc, c'est le genre de solution. Il y a 49 recommandations là, qui vont d'un peu partout, là, du rehaussement de la formation des agriculteurs pour avoir accès aux subventions, justement, en passant par l'ASRA. Donc, ça ratisse très large. Aussi, pour la question du prix des terres agricoles, ben, c'est multifactoriel, là. Je pense pas qu'il y a un gouvernement qui voudrait dire du jour au lendemain, mais on exproprie tout le monde. Puis, tu sais, je pense pas que politiquement ça serait. Ben, c'est pas rentable politiquement. Puis je pense aussi que c'est vraiment ça heurte directement la conception de la propriété que notre société capitaliste a. Tu sais, fait. Mais il y a plusieurs choses que le gouvernement a l'opportunité de changer. Une de celles-là, c'est entre autres la levée du moratoire sur les superficies cultivables. Donc là, comme je disais, l'impact de l'agriculture industrielle emporté finalement la dévitalisation des rivières. Donc là, on a dit, bon, on défriche plus. Défricher égale, on coupe toutes les arbres puis on fait pousser du maïs à la place. Donc, ça a un impact environnemental. Au lieu d'avoir un écosystème avec une biodiversité puis tout ça, puis bon, tous les bienfaits, là, je vais pas faire un cours ici là, de biologie forestière, là, mais tous les bienfaits d'une forêt par rapport à une monoculture, tu sais, c'est comme beaucoup, beaucoup plus écologique de conserver une forêt que de la monoculture industrielle. Mais, puis justement, c'est drôle parce que hier, justement, dans la terre de chez nous, qui est un des, en fait, qui est le plus grand quotidien agricole au Québec, là, le président Martin Caron, il faisait un, en fait, il était interviewé par un journaliste, là, mais le gouvernement a mis en place des modifications réglementaires pour assouplir justement le RA. Puis là, ça va avoir l'impact de remettre en culture, je pense dans l'article, il était indiqué 14 200 hectares qui pourront être mis en culture, donc qui pourront être défrichés. Mm-hmm. Donc ça, jouer sur ces leviers d'offres,
ouais,
en offrant justement la possibilité aux agriculteurs d'augmenter leur superficie dans des régions où ce que c'est pas déjà trop déboisé.
Ouais.
Parce que on regarde des MRC comme la MRC des Mascoutins, ben, qui est Saint-Hyacinthe. Là.
Ouais. Il ne reste pas
même de forêt. Là. Il reste pas même de forêt. Fait que si on, tu sais, ça serait. Est-ce que c'est.
Ouais, faut tempérer les choses,
c'est ça.
Faire les choses à la bonne place.
Exactement.
Faut baliser.
Mais on regarde, tu me parlais justement, je pense, de Sainte-Jeanne d'Arc.
Oui. Ouais, nord du lac Saint-Jean.
Au nord du lac Saint-Jean. Donc, que tu te promenais dans un rang puis que tu voyais que c'était toutes des forêts en friche, hein, ce qui est...
Ouais,
ce
des
qui
anciens
est
champs.
C'est exactement. Donc, si on arrive dans des endroits de cette catégorie-là, ben à ce moment-là, puis qu'on impose des normes de développement durable, donc bandes riveraines, superficie de couvert forestier. Donc, si on arrive avec des situations comme ça, mais à ce moment-là, on va augmenter l'offre. Fait que l'agriculteur qui est dans les basses terres du Saint-Laurent et qui a peut-être l'opportunité de s'installer au lac Saint-Jean, ben, il va dire, ben, en plus de m'installer, je vais avoir l'opportunité de défricher. Puis là, ben, je vais être capable d'avoir une superficie.
Puis d'être propriétaire peut-être
d'être,
aussi.
Exactement, d'être propriétaire. Mmh. Donc, ça, c'est une façon. Maintenant, comme je disais, je m'implique beaucoup dans le milieu agricole puis dans des organismes. J'ai travaillé pour l'ARTER, qui est un organisme de jumelage pro bono. Puis cette année, je travaille avec Protecter, donc on reste dans la terre, mais qui est essentiellement un organisme qui favorise la mise en place de fiducies d'utilité sociale agroécologique. Donc, le but de ça, grosso modo, puis vous pourrez peut-être lire l'article qui est paru dans la presse récemment à ce sujet-là. Puis je vais reprendre l'expression qui a été titrée dans l'article. Là. Une fusa, finalement, c'est le fait d'acheter une terre, de mettre un cadenas dessus, donc de plus jamais être capable de la revendre, de prendre la clé puis de l'acheter. Donc, une fusa, essentiellement, ça sert à préserver ou s'assurer que le caractère agricole d'une terre va rester agricole. Mm-hmm. Parce que...
Protéger de la spéculation.
Exactement. Ça ne protège pas contre l'enclavement. Ça se peut que le voisin, il tombe, il vende un jour à un promoteur, puis que le promoteur réussisse à faire des zonés, puis qu'il y ait des maisons, puis que finalement, le cultivateur dans le milieu, ben, il se fait tirer des choux puis des tomates parce que les autres voisins disent « Tu fais du bruit avec ton tracteur le dimanche. »
C'est à eux de ne pas mettre leur maison là, tu sais.
C'est ça.
Mais bon.
Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que la réalité, c'est que les premiers acheteurs de cette maison-là vont peut-être accepter, ouais, comprendre. Mais quand ça fait 3, 4, 5 propriétaires, est-ce que le cinquième propriétaire est vraiment au fait que c'est lui, c'est comme sa maison qui est venue après l'agriculteur? La réalité, c'est que c'est pas toujours le cas. Hein? Donc, les fiducies d'utilité sociale, justement, c'est un moyen qui est fait pour protéger finalement à tout jamais, en fait, c'est l'idée, là, protéger le foncier agricole puis qui peut faire partie d'une solution. Le jour que les FUSA vont être capables d'acquérir un certain seuil critique, surtout, puis ça serait surtout dans les régions à forte spéculation, là, donc Couronne de Montréal, Basse-Terre du Saint-Laurent, s'ils se permettent, si on est capable d'investir pour former ces fiducies-là, puis d'utiliser ces fiducies-là comme une ceinture ou un bouclier contre la spéculation foncière, puis qu'on arrive à un point où ils sont capables de représenter un niveau significatif, ben ça va avoir un impact pour toutes les autres terres qui sont en tenure privée. Donc, c'est comme un peu une question des logements sociaux, là. On n'a pas besoin que le parc immobilier soit à 50% de relogements sociaux. On a juste besoin d'un certain seuil. Donc, admettons qu'on dit que c'est 10%, ce seuil-là. Mmh. Puis là, à partir de là, ben, on va avoir un benchmark sur un logement, ça vaut X montant, puis il va avoir une qualité X. Donc, si on est capable de faire la même chose un peu avec des modèles comme ça, ben, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir un impact sur la spéculation.
Eh bien, c'est des belles pistes. Fait que on serait pas mal à une conclusion. Au final, devrait-on être optimiste pour une certaine renaissance du milieu agricole?
Ben, en fait, je vais parler avec mon cœur ici, puis je vais dire oui, j'ai foi en le potentiel du secteur agricole comme outil de développement économique, de développement rural. Puis je pense que si on est capable de conscientiser les consommateurs, les gouvernements à l'importance de ce secteur-là, ben à ce moment-là, on va peut-être être capable de continuer d'accomplir de grandes choses parsemées dans nos rangs de la province.
Sur ces sages paroles, Charles Sorditrice est maintenant dans l'ordre générique. Samuel, merci infiniment d'être venu en studio. Super intéressant, un sujet qui sortait du cadre un peu, comme on le mentionnait. Très bonne idée, Renaud. Très merci d'être venu avec nous, Sam. Merci, Renaud, encore une fois, d'avoir préparé l'épisode.
Toujours un plaisir.
J'allais dire la même chose. On est connectés. Merci, Mégane, encore une fois, de toujours être là le mercredi.
C'est un plaisir aussi.
Puis merci à vous, Charles Sorditrice, de nous écouter semaine après semaine. Jaser de politique et de sujets qui parlent un petit peu moins politique, mais qui le sont tout autant. Puis on espère avoir réalisé un épisode de l'ampleur qu'il était aujourd'hui. Sur ce, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre émission des Attachés de presse. À la prochaine, tout le monde.